Puis Pachot, Julien Routy, bonjour. Alors, on se retrouve 6 ans, quasi jour pour jour. C'était ici au Manos pour la présentation d'Alibi.com. Et maintenant, c'est la suite des grandes aventures de cette équipe de choc. Alors Philippe, vous n'avez pas beaucoup les chiffres, mais pourtant j'en ai quand même certains qui sont assez époustouflants. 24 millions de recettes, 3,6 millions d'entrées pour un budget de 7,5 millions. Ça donne le tournis quand même, non?
Oui. On a la chance que les gens viennent voir nos films. C'est vrai qu'on n'arrive pas trop à analyser nous. Pourquoi ni comment on écrit des trucs qui nous font rire et apparemment ça fait pas rire que nous, donc tant mieux.
Tant mieux.
Ouais, tant mieux.
Alors le numéro 2, quand s'est-il mis en place? Est-ce que dès le départ on s'est dit avec des chiffres pareils, il faut nécessairement une suite, non?
C'est le public qui était vraiment en demande de nous demander une suite. Après on a mis du temps à trouver la bonne idée. On voulait surtout pas que ce soit déceptif, c'était le risque avec les suites souvent. Donc c'est pour ça que ça a mis autant de temps, on a mis 6 ans à faire une suite, parce que le temps de trouver cette fameuse bonne idée, en tout cas nous, qui nous semblait être une bonne idée, le fait de faire un mariage et de louer les services de faux parents, parce qu'on n'assumait pas les vrais. Et puis voilà.
Alors Julien, est-ce qu'il y a un processus créatif? C'est la 6e collaboration avec Philippe. Est-ce que ça va de soi? Est-ce qu'il y a un modus opératoire?
Le processus créatif, il est assez simple. On se retrouve pour faire des blagues chez lui, autour derrière un ordinateur, et trouver des histoires. On est 4 à écrire, donc il y a Philippe, son petit frère, ouais. Pierre Lachaud, Pierre Dudan.
Et Pierre Dudan, qui avait déjà collaboré au précédent.
Exactement, sur le précédent, on n'a pas changé l'équipe qui gagne. Et après le processus, c'est beaucoup de temps en fait. On prend du temps pour écrire, pour trouver des bonnes histoires, une bonne histoire, des bons rebondissements, des bons personnages. Et surtout, ce qui est très long, c'est trouver des gags et des vannes, et c'est ça le plus long.
Chacun a son petit carnet et on échange les notes, comment ça se passe?
Pas forcément un petit carnet, mais effectivement, on est tous les quatre ensemble chez moi. Souvent ça se passe chez moi. Et puis c'est des échanges. Moi j'ai un petit cahier de vannes, c'est vrai, mais que
c'est-à-dire top secret
que j'alimente
au fil des rencontres,
au cours de l'année même. Ouais. Dès que j'ai une idée de blague, de situation, de personnage, on note, et du coup ça nous permet d'avoir des cartouches en stock qu'on peut ressortir dans les différents films.
Est-ce que quand vous écrivez justement un gag ou une scène pleine d'humour, est-ce que vous la mimez à l'autre, ou est-ce que vous appelez éventuellement Didier Bourdon, Tarek pour venir voir et jouer les premiers spectateurs? Elodie, c'est plus facile, elle est un peu plus près.
Alors, on doute beaucoup nous sur l'écriture, donc c'est vrai qu'on fait lire énormément. On demande beaucoup de retours. Ceux de Nathalie Baye, par exemple, ont été très précieux. On avait fait une réunion d'écriture chez elle.
Ah, carrément.
Ouais, où on a redescendu tout le scénario. Elle avait des remarques qui étaient très, très, très intéressantes et qui ont vraiment fait progresser le scénario. Elodie est mise beaucoup à contribution aussi. Tarek. Donc, on essaye vraiment de prendre un maximum de retours pour les intégrer, pour essayer de moins se planter, le moins possible. Parce que c'est vrai que des fois, à force de travailler tous les jours pendant beaucoup de temps, on commence peut-être à manquer de recul, d'objectivité. Donc ça nous aide à savoir ce qui est drôle, ce qui est moins drôle, si la structure fonctionne, les points à retravailler.
2017, entre-temps, il y a eu le Me Too, il y a eu l'affaire Weinstein. Alors, en tant que scénariste, ça a amené une autre vision, une autre façon d'aborder les thèmes, les sujets. Est-ce qu'il y a éventuellement une autocensure de votre côté? Il y a des sujets à ne pas aborder?
Faut être vigilant, en tout cas, c'est sûr. C'est sûr parce que l'époque a changé, donc faut qu'on fasse attention. Après, faut qu'on fasse aussi attention à...
À ne pas se censurer.
À pas trop se censurer non plus. Ah ouais.
Sinon, on perd la sève un peu de ce qui fait qu'on s'amuse de tout le monde. Nous, c'est fait avec bienveillance. Donc, l'idée, c'est de ne pas être mordant ou méchant. L'idée, c'est juste de rire et de s'amuser. Et c'est vrai que si on commence à se censurer parce que t'es fait de société ou t'es... Bah, tu perds un peu le piquant de ton écriture et c'est un peu dommage.
Ou riez de l'un de l'autre. Comment ça
ça, quand c'est drôle.
Il vaut mieux.
Quand c'est drôle, ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît tellement qu'on prend pas de pincettes non plus pour se dire quand...
Ça va pas.
Ouais, ça va pas, quoi. Il n'y a pas besoin de politesse, de formule de politesse. Hein. On va droit au but, ça va plus vite.
Alors, on reproche souvent aux comédies françaises, c'est de manquer de rime dans le vôtre. Peut pas dire, mais il y en a du rythme. Qu'est-ce que vous avez comme référence cinématographique? Je pensais Monty Python, les frères Farrelly, Buster Keaton, Bean ou Ben Hill.
Ouais, c'est des très bonnes références. Hein. C'est vrai. Hein. Ah ouais. Tout ça, c'est très bonnes références. C'est vrai que nous, on est plutôt dans l'humour visuel. C'est pas par choix. C'est ce qui nous inspire. C'est ce qui nous Et on a grandi avec tout, avec toutes les références citées. Donc je pense que oui, ça inspire consciemment ou inconsciemment, forcément.
Vous allez au cinéma ensemble pour justement voir une comédie en groupe en disant tiens, on va voir ce que ce Claude a fait.
Non, pas pour travailler. Ça nous arrive. Par exemple, on a été voir Avatar ensemble, mais c'était vraiment une sortie de détente. Mmh. Pas de travail, mais c'est vrai qu'on ne fait pas de...
Non, pas pour le travail, on se dit on va aller voir ce film ou ce film.
Mais en fait, il y a des films qu'on regarde pour le travail, mais en fait, on les regarde plutôt chez nous. C'est... Je sais pas quoi citer encore, mais après, on ne fait pas de sortie...
D'inspiration.
Non, ouais.
Au niveau du casting, mais on retrouve quand même, comme vous dites... L'équipe gagnante, il y a vous deux, fatalement, il y a Tarek, il y a Elodie. Et les parents de Flo, ils ont dit oui tout de suite?
Oui, je crois qu'on était tous très contents de se retrouver avec Didier, Nathalie, parce que le tournage d'Alibi.com, c'était quand même super bien passé. La sortie du film, c'était super bien passé, ça va être un gros succès. Donc on était très heureux de tous se retrouver. Je me souviens, moi, le premier jour où, j'ai filmé Didier et Nathalie, les fêtes de les voir dans le retour, ça m'a fait une petite émotion, comme retrouver un couple que j'avais pas vu depuis longtemps,
le temps a vite
comme
passé.
De la famille, ouais, un truc de, c'était assez joli, c'était assez chouette.
Par contre, les parents de Grec, là, vous les avez trouvés là. Ouais. Alors bon, Gérard Junot, vous l'aviez déjà dirigé dans Babysitting.
Ouais.
Est-ce qu'il a changé?
Il a vieilli
depuis Babysitting. On avait besoin d'un escroc. Donc Gérard,
une tête d'escroc.
Voilà, Gérard, c'est apparu comme une évidence. Et par contre pour Ariel, là j'étais assez gêné parce qu'on se connaissait pas, elle connaissait pas du tout nos films. Donc à ma première rencontre avec elle, forcément je vais lui proposer de jouer une ancienne actrice de charme. J'étais pas très très à l'aise. Et au final, elle a compris que le but, c'était de faire quelque chose de bienveillant, de drôle, pas de vulgaire, juste pour faire rire les gens. Et puis, c'est comme ça qu'elle a embarqué.
Tout était déjà écrit au moment où vous n'avez pas pensé à elle particulièrement pour ce type de rôle ou
Non, tout était déjà écrit quand on allait la voir. Après, non. Hein, je crois pas qu'il y ait un truc...
C'était déjà écrit et en fait l'idée c'était de se dire qu'il fallait éviter enfin fallait trouver vraiment de la légèreté et de la candeur et c'est pour ça qu'Ariel Dombal c'était parfait. Mais le rôle était déjà écrit. Après elle a fait des propositions sur le tournage parce qu'elle a son naturel à elle mais...
En parlant justement à un pro, quand on a Mélissa Doun et Philippe Duquesne, est-ce que tout est... bien minuté, bien calibré ou au contraire on les laisse
Non, Mehdi et Philippe ça va, celui qu'on a fait exprès de laisser un peu en roue libre c'est Gad Elmaleh.
Ah ouais.
Ouais, parce qu'il a un tel génie comique que on a fait exprès de le laisser un peu comme ça s'amuser avec le texte, s'amuser avec le personnage, et du coup ça donne des quand il dit par exemple tout va se passer comme sur de la crème, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça c'est lui qui l'a sorti comme ça, et à chaque fois c'est un rire dans la salle, donc c'est chouette.
Vous faites partie des enfoirés. Ça fait combien d'années ?
6 ans, non ? Mmh. Ouais, ça doit être ça.
On parle, les mauvaises langues parlent de charity business. Pourtant, quand on voit quand même des gens comme Patrick Fiori et Pascal Obispo qui viennent par amitié venir s'auto-parodier, c'est qu'il y a quand même un esprit quoi, d'amitié, de famille.
Ah bah ça c'est certain, hein. Enfin, nous l'expérience des enfoirés c'est quelque chose de très fort, enfin, c'est un bonheur chaque année d'y aller, ce rendez-vous, c'est quelque chose de... ça crée des liens très forts, et c'est comme ça que Patrick effectivement s'est retrouvé dans le film, parce que pareil, Patrick, on va pas raconter ce qui se passe pour pas tuer la vanne, mais il vient vraiment pas longtemps, et c'est parce qu'il vient pas longtemps que c'est aussi drôle, sauf que le fait de pas venir longtemps... pour faire preuve de beaucoup d'autodérision, quoi, parce que il est venu de Corse exprès pour tourner un truc qui est vraiment pas long, et au final on le remercie énormément parce que c'est de par sa présence que le gag marche
fonctionne
aussi fort,
ouais. En tout cas, si jamais vous avez le numéro de téléphone à la fin de l'interview, vous me le donnez parce que ma fille va avoir ses 30 ans. Donc, ça serait sympa si vous pouvez venir chanter un petit truc. Donc,
faut pas qu'il y ait de voiture de police à côté, quoi.
Oui, ça serait mieux. Vous avez présenté le 16 janvier en ouverture à l'Alpe d'Huez votre film. Quand on va à l'Alpe d'Huez, c'est pour faire la fiesta ou c'est s'amuser entre potes, ou il y a quand même l'appréhension d'une des premières projections de votre film, et il y a quand même aussi du public de professionnel là-dedans.
Ah ouais, non, c'était une grosse pression parce qu'effectivement il y a derrière 900 ou 1000 personnes, beaucoup de public, de professionnels, de journalistes, donc c'est un essai toujours, c'est important de transformer l'essai là-bas. Et ça s'est très bien passé, c'était très chouette, on a fait l'ouverture. Et voilà, un grand soulagement en repartant en disant « bon, ça, c'est fait, ça s'est bien passé ».
C'est une projection qui est très significative, cool. En plus, ouais. Parce qu'il y a deux types de publics, il y a du vrai public et il y a du public professionnel. Mmh. Et c'est vrai que ces deux publics qui sont mélangés n'ont pas forcément les mêmes réactions et ne rient pas forcément aux mêmes blagues. Et c'est intéressant de voir si tout le monde... si ça fait marrer tout le monde. Et là, pour le coup, on était hyper contents parce que ça riait aussi bien dans les professionnels que dans le public. Et on a eu une espèce de
soulagement quand même.
Ouais, de soulagement énorme. Et puis de retour immédiat du public et des pros qui nous ont dit ouais, c'était super. Et pour le coup, c'est très gratifiant.
Est-ce que ça. Bon, vous faites énormément d'avant-premières. Il y a justement celle de l'Alpe d'Huez. Est-ce que ça pourrait amener un remontage ? Aussi en fonction des réactions ou des non-réactions
de... Ah, ça pourrait, ouais, mais après, on essaie de... Avant l'Alpe d'Huez, on fait déjà des projo-tests. Donc, normalement, les projo-tests d'avant nous servent déjà à savoir ce qui fonctionnerait ou non. Donc, normalement, cette étape-là est déjà passée, normalement. Normalement. Avec pas mal de monde, parce qu'entre-temps, on l'a montré quand même à pas mal de monde.
Justement, en parlant d'avant-première, vous êtes même allé à Charleroi, oui. Et en bon Carolo, je vais vous demander, et le public Carolo, il est comment ?
Ah, il était très cool, hein, Charleroi.
C'était génial, ouais, franchement, on a passé un moment mais extra. C'était très chaleureux, c'était volontaire, tu sentais, les gens avaient envie de rire, étaient contents de nous voir.
Il s'est passé plein de trucs en plus.
C'était chaleureux, très chaleureux.
Et racontez-moi un petit peu l'histoire du téléphone. Oui, téléphone
à Elodie. On était à l'issue de la projection, donc du coup, c'est un débat et du coup, on peut parler un peu plus avec les gens. Et alors, c'est très rigolo. La première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un homme du public qui lève la main et qui demande à Philippe, mais comment vous appelez ? Du coup, on ne comprend pas trop où est-ce qu'il va en venir. Et lui, il dit, et vous appelez comment ? Il fait, justement. Et en fait, il s'appelle Grégory Von Neufeld. Comme le personnage de Philippe dans le film. Et il est venu sur scène et il nous a montré un papier officiel et effectivement, il s'appelait exactement pareil. Et on s'est dit, ouh là, ça commence bien. Et après, on a enchaîné avec plein de questions rigolotes et on s'est bien amusé avec le public. C'était vraiment un bon moment. Et il y a quelque chose, effectivement, de très convivial à Charleroi. C'était vraiment... très agréable. Et avec Elodie, bah oui, c'est lui qui peut. C'est des errances de Philippe Lachaud.
Non, mais des gens demandaient à. Je sais plus où était Elodie ou je sais plus pourquoi on s'est mis à l'appeler. Bon, bref, et du coup, on s'est amusé à.
C'est peut-être les smileys.
Ah oui, voilà.
Ah oui. Ah oui, il y avait une petite vengeance comme ça. Bon, en tout cas, on a bien rigolé. Ouais. Les gens sont bien marrés.
Philippe, Julien, un grand merci. On rappelle donc alibi.com 2 qui sort donc le 15 février. Merci à vous.
Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.